Et bonjour à tous. J'inaugure ce matin une nouvelle étape de notre, non pas découverte, mais étude de la Bible. Nous avons, vous le savez, terminé l'étude des lettres de Jean. Et ce que nous vous proposons maintenant, quand je dis nous, ce sont les orateurs qui vont se succéder, ce que nous vous proposons maintenant, c'est une étude de ceux qu'on appelle les petits prophètes. Alors, petit prophète ne veut évidemment pas dire prophète mineur, qui aurait moins d'importance que les autres. On les appelle petits prophètes simplement parce qu'ils ont... Alors, ils sont 12, vous le savez sans doute. Je vous donne la liste, mais vous la connaissez comme moi. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Donc on les appelle petits encore une fois parce qu'ils ont laissé une œuvre littéraire qui n'est pas volumineuse, contrairement à d'autres comme Ésaïe, Jérémie ou Ézéchiel. Et donc j'ouvre cette série d'études, donc qui sera poursuivi au fil des semaines, sur les petits prophètes, et comme évidemment il fallait bien en choisir un pour commencer, j'ai choisi, alors non pas celui qui arrive en premier dans la liste que je viens de vous donner, qui est Osée, mais j'ai choisi le plus ancien. Alors ça se joue à pas grand chose, mais il y en a un plus ancien qu'Osée, qui est d'ailleurs le plus ancien de tous les prophètes, toutes catégories confondues, c'est-à-dire les grands, les moyens, les petits. C'est le plus ancien de tous, et vous savez sans doute qui c'est Amos. Alors, Amos, ça nous emmène loin dans le passé, du coup. Ça nous emmène au 8e siècle. 8e siècle avant notre ère, donc 28 siècles en arrière. Et pourtant, parce que nous ne sommes pas ici à l'école, mais à l'Église, qui n'est pas tout à fait la même chose, même si disciple, ça veut aussi dire élève, notre ambition, elle n'est pas documentaire, elle n'est pas de faire un cours d'histoire ou de se renseigner sur telle ou telle période biblique. Elle est évidemment de tirer concrètement des leçons, en tout cas c'est comme ça qu'on envisage les choses, de tirer concrètement des leçons pour notre existence. Alors, qu'est-ce que peut bien nous donner comme leçon quelqu'un qui a vécu 28 siècles avant nous, évidemment dans un contexte, et on prend tous les aspects politiques, sociaux, économiques, culturels, radicalement différents du nôtre, et pourtant, et c'est le miracle de la Bible, et pourtant, non seulement Amos a des choses à nous dire, mais il a des choses à nous apprendre. Alors, pour parler d'Amos, je viens de dire que le contexte était différent, tous les contextes étaient différents. Il faut quand même resituer les choses. On est, à l'époque, donc 8e siècle avant Jésus-Christ, alors ceux qui ont eu la gentillesse ou la patience d'entendre le mini cours d'histoire que j'avais donné il y a quelque temps, c'est l'époque des deux royaumes, Israël et Juda, royaume, alors qu'on appelle aussi royaume du Nord et royaume du Sud. Donc vous savez que l'apogée de la monarchie en Israël, c'est Salomon. Enfin, la période davidique, David et Salomon, Salomon pouvant être considéré comme l'équivalent de ce qu'est pour nous Louis XIV, c'est-à-dire la splendeur de la monarchie. Et comme toujours, à une période de splendeur succède une période de déclin. Ça s'est produit aussi chez nous, valait beaucoup mieux être Louis XIV que Louis XVI, on est bien d'accord. Et là, ça n'a pas tardé, puisque le fils de Salomon, quand il est monté sur le trône, ou plutôt quand il s'est agi de le mettre sur le trône, il est allé dire aux 12 tribus, il faut que vous me reconnaissiez comme roi. Et là, ils ont saisi l'occasion, parce que quand on tend une perche au peuple, il la saisit. Ils ont saisi l'occasion pour lui dire on veut bien de toi comme roi, à une condition, tu nous baisses les impôts. Et il a répondu non, je ne vais pas, il n'est pas question que je baisse les impôts. Bon, au revoir. Et donc, il y a 10 tribus qu'on dit « non merci, on ne veut pas comme roi », et 2 tribus, Juda et Benjamin, qui ont dit « ok, on marche ». Et donc, il n'est devenu roi que de 2 tribus au sud, avec capitale Jérusalem, et les 10 autres tribus au nord ont fait sécession avec des capitales successives, mais à l'époque où on parle, la capitale du royaume du nord, c'est Samarie. Peu importe les motifs fiscaux qui nous ont amenés là, et peu importe, parce qu'il va s'écouler un peu moins de 2 siècles avant, donc entre le schisme, hein, le schisme dont je viens de parler, c'est 933 avant Jésus-Christ, très précisément, et là, on est en 700... on a du mal à situer parce que c'est pas évident, mais 760, on est aux environs de 760, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi on a quand même pas tant de mal que ça à situer. Et donc, à cette époque-là, il y a, et d'ailleurs le livre commence comme ça, pourquoi pas commencer à lire tout de suite, parole d'Amos, alors on y reviendra, qui était un éleveur de Tekoa, parole dont il eut la vision contre Israël, donc Israël c'est le royaume du nord, au jour d'Ozias. Ozias c'est le roi du sud. Alors contre Israël, donc royaume du nord, au jour d'Ozias, roi du sud, donc roi de Juda, et au jour de Jéroboam, en réalité c'est Jéroboam II, puisque c'est le deuxième du nom, fils de Joas, roi d'Israël, donc le roi du royaume. Alors, pour fixer les idées, royaume du nord, capitale Samarie, roi Jéroboam. Oui, c'est pas seulement une taille de bouteille de vin, Jéroboam, c'est aussi un roi. Et royaume du sud, Israël, Juda, on va y arriver, capitale Jérusalem, et roi Ozias. Et on ajoute 2 ans avant le tremblement de terre. Alors, la situation à cette époque-là, elle est, et c'est pour ça qu'on peut tirer des leçons du livre d'Amos, elle est comparable à la nôtre sous plusieurs aspects. Il se trouve que les deux pays menaçants ne menacent plus rien ni personne, c'est-à-dire la Syrie d'un côté et l'Assyrie de l'autre, pas la même chose. Et donc, pour l'instant, ces royaumes-là sont calmes parce que ils ont trop de problèmes à l'intérieur, trop de problèmes à gérer à l'intérieur pour avoir des velléités d'expansion et d'aller embêter leurs voisins. Donc, on est à peu près tranquille. Et on est à peu près tranquille depuis un moment. Ça fait quelques décennies qu'il n'y a pas eu de guerre. Au point que les deux rois dont on vient de parler, c'est-à-dire Ozias et Jéroboam, et ça c'est un signe de stabilité politique, ils vont régner 40 ans chacun. Ils vont tous les deux avoir des règnes de 40 ans, ce qui à cette époque-là est absolument exceptionnel. Vous pouvez voir ceux qui précèdent et ceux qui suivent, ça ne durera pas aussi longtemps, parce que encore une fois c'est une période de stabilité, c'est une période où on n'a pas besoin de faire la guerre, et c'est une période de prospérité économique. Aujourd'hui on dirait une croissance à 2 chiffres. Avec, j'allais dire, comme seule préoccupation pour le royaume du Nord, de ne pas laisser le royaume du Sud garder une emprise religieuse, parce que le royaume du Sud, c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Et donc, quand on est, il suffit de voir aujourd'hui ce que représente la Mecque pour les musulmans, et donc, d'une certaine manière, l'emprise de l'Arabie Saoudite sur une grande partie du monde musulman, ou ce qu'a été, et ce qui est encore un tout petit peu, mais beaucoup moins, le Vatican pour la chrétienté. Et on voit tout de suite que la capitale religieuse, enfin le centre névralgique, le cœur d'une religion géographique, ça donne une emprise politique, évidemment. Et donc, le royaume du Nord va lutter contre ça de plusieurs manières, et notamment en se créant des villes religieuses, c'est-à-dire des centres religieux, dont le principal va être ils vont pas aller chercher le nom très loin, puisque ça va être la maison de Dieu, donc la maison de Dieu en hébreu, Bethel. Et donc Bethel va concurrent, qui est exactement à la frontière, alors côté nord, hein, mais à la frontière entre les deux royaumes, Bethel va être inventé pour concurrencer Jérusalem et pour faire en sorte que tous les pèlerins, parce qu'on a l'habitude du pèlerinage, et les pèlerinages, ça a la vie dure. Donc on a l'habitude d'être pèlerin pour aller à Jérusalem, et là on va créer, juste avant la frontière, une ville qui va être un sanctuaire religieux, qui va signifier aux pèlerins, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin et de franchir la frontière, puisque nous, on a aussi une maison de Dieu qui vaut largement celle de Jérusalem, et donc, venez faire vos sacrifices, vos offrandes chez nous, etc. Alors, il y aura plusieurs centres religieux dans le royaume du Nord, il y aura Gilgal, peu importe. Et si vous voulez, pour ceux qui sont suffisamment anciens pour se souvenir de l'épisode, Bethel, c'est l'équivalent religieux de la Grande Motte. Vous savez peut-être, enfin, vous vous souvenez peut-être que la Grande Motte, alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la Grande Motte et y sont déjà allés, c'est une verrue architecturale, mais c'est une idée de De Gaulle qui, c'était au début du tourisme de masse, et il s'était aperçu que les Européens du Nord allaient se faire dorer la pilule au soleil, c'est-à-dire en Espagne, et il avait eu l'idée de dire, ben, si sur la route, juste avant la frontière, c'est-à-dire là où il y a autant de soleil, on fabrique une ville qui sera une ville touristique, au lieu d'aller en Espagne dépenser leur argent, ils s'arrêteront pour dépenser leur argent chez nous. C'est exactement ça, Bethel, sur le plan religieux, c'est-à-dire, au lieu d'aller faire leur dévotion à Jérusalem, ils s'arrêteront à Bethel, et ça fera marcher le commerce. Bon. Tout ça pour dire quoi? Parce que là, vous vous demandez sans doute où je veux en venir. Ce qui est important de savoir, et ça va être déterminant pour la suite, c'est que Amos, c'est un berger, donc on vient de dire qu'il est berger. Alors, il est deux choses. Je ne veux pas être trop bavard ce matin, mais c'est lui qui le dit. Alors, à un moment, il dit berger, l'autre moment, il dit bouvier, c'est-à-dire, berger, c'est les moutons, et bouvier, c'est les vaches. Donc, en fait, il surveille des animaux. Et il est, alors... c'est la seule fois où le mot, enfin pratiquement la seule fois où le mot est utilisé en hébreu, donc on s'est demandé ce que voulait dire ce mot. Il est pinceur, la racine hébraïque suggère de pincer, mais c'est un verbe qui veut dire littéralement pinceur de sycomore. Bon, alors on s'est demandé pourquoi pinceur ou inciseur de sycomore, et effectivement on sait maintenant que alors, sycomore, c'est pas le sycomore européen, c'est en fait le figuier. Enfin, c'est une des sortes de figuier. Et on sait maintenant que pour rendre ces figues-là comestibles et les faire se reproduire d'une année sur l'autre, il fallait les inciser. Enfin bon. Et lui, son revenu de complément, ça consiste à faire ça. Ça consiste à inciser les figues. Mais peu importe. Ce qui est important de savoir, encore une fois, c'est que Dieu va aller chercher un berger de Tekoa. Alors, Tekoa, pareil, donc c'est dans le royaume du sud, donc dans le royaume de Juda, c'est même en dessous de Jérusalem, et c'est à, allez, on va dire 5 bornes de Bethléem. Alors, Bethléem, ça, c'est un patelin qu'on cite. Donc, c'est un bled, hein, Tekoa. C'est en moyenne montagne, c'est-à-dire à 900 mètres. Et donc, lui, il garde ses animaux à Tekoa, les moutons, les... Hein. Et c'est lui que Dieu va aller chercher pour aller prophétiser dans le royaume du Nord, c'est-à-dire à Bethel. Vous imaginez du coup à quel point c'est, humainement parlant, pas du tout le mieux placé pour faire ça. D'abord parce qu'à cette époque-là, prophète, c'est un métier. Et c'est souvent un métier de père en fils. C'est un métier qui s'apprend. Alors ça nous paraît bizarre à nous de dire prophète, c'est un métier, mais effectivement, on est prophète de père en fils, les fils des prophètes, et surtout, on en vit, ce qui n'est pas du tout son cas. Lui, il n'est pas prophète, et il va le dire, d'ailleurs, on va y venir tout à l'heure, quand on examinera les textes, mais il va dire, mais moi, je ne suis pas prophète de métier, Parce qu'on va lui dire, qu'est-ce que tu viens faire dans le royaume du Nord alors que t'es un berger du, alors que t'es du Sud, va prophétiser chez toi, c'est-à-dire dans ton pays, et là tu gagneras ta vie, tu pourras faire ce que tu veux, c'était une manière de s'en débarrasser. Et lui, il répond, maintenant, moi, je suis pas prophète de métier, Dieu est venu me chercher, alors que j'étais avec les animaux, il m'a sorti de là, et il m'a dit, tu vas, bon. Alors, la première leçon, c'est que, et ça, j'allais dire, Manu l'a suggéré tout à l'heure, Dieu est différent. Dieu ne raisonne pas comme nous. Parce que sinon, Jésus serait pas apparu dans la plus extrême pauvreté, même pas d'une famille de prêtres. Enfin bon, Jésus, c'est tout le contraire de ce que stratégiquement on aurait imaginé pour faire apparaître le Messie. D'ailleurs, c'est de là qu'est venu le plus gros des problèmes, c'est que on attendait tellement autre chose. Pour le Messie, que du coup, on était tellement loin qu'on ne l'a pas reconnu. Vous vous souvenez de Paul qui fait une obsession sur ce que doit être le Messie et à qui Jésus est obligé d'apparaître comme lui il l'imagine, tellement il ne peut pas imaginer que ce soit ce type de Galilée, ce pauvre gars qui a abusé un certain nombre de pauvres gens. Et Jésus, qui aurait pu, pourquoi pas, rencontrer Paul comme il a rencontré Pierre et tous les autres apôtres, il a été obligé de se mettre dans la peau du Messie que Paul attendait, c'est-à-dire un Messie écrasant de puissance, de lumière, enfin, bref. Moi, si j'avais dû choisir un type pour aller prêcher dans le royaume du Nord, à Bethel, et pour annoncer tout ce que Dieu avait à dire, je n'aurais certainement pas choisi un berger du Sud. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Alors vous me direz, parce que c'est Dieu et ça le regarde. Y a quand même on peut quand même déceler une raison. C'est que la parole de Dieu transmise à Amos, elle tient en une phrase qui arrive tout de suite dans la prophétie. Le Seigneur rugit. Le Seigneur est un lion. Et c'est un lion en colère. Et pour être convaincant quand on dit ça, moi quand je le dis, ça ne convainc personne. Ça ne convainc personne parce que moi, les seules fois où j'ai vu des lions, et j'en ai pas vu beaucoup, ils étaient en cage, ils n'étaient pas dangereux. Ce que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est que être berger à Tekoa, au 8e siècle, c'est pas comme être berger à Kossol au 21e siècle. C'est pas je me mets les doigts de pied en éventail et j'attends que les brebis reviennent toutes seules après s'être baladées. Quand on est berger à cet endroit-là, on est confronté à trois dangers, mais deux principaux. Les lions, il y a des lions, les ours et les serpents, accessoirement. Alors, je prends les textes qui... Voilà. Alors... Je vais pas lire toutes les références que j'ai prises parce que sinon ça. Ce que je fais aujourd'hui, ça aussi, ça mérite d'être précisé. Ce que je fais aujourd'hui, c'est une présentation du livre. C'est pas une étude approfondie. Je vous encourage cette semaine ou si vous n'avez pas le temps dans les semaines suivantes à le lire parce qu'effectivement, moi je ne donne ce matin que des indices pour guider la lecture, si je puis dire. Et donc, je lis quand même sa prophétie qui commence par « De Sion, le Seigneur rugit, et de Jérusalem, il donne de la voix, les pâturages des bergers sont désolés, et la crête du Carmel desséchée. » Et ça, il le dit à Bethel, c'est-à-dire dans l'autre royaume. Mais il est convaincant, et c'est pour ça que Dieu l'a choisi, parce qu'il sait de quoi il parle. Alors, le lion revient comme un thème, hein. Chapitre 3, verset 4. Un lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Verset 8. Un lion a rugi, qui ne craindrait? Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétiserait? Etc., etc. Et au verset 12, toujours. Tout comme un berger arrache de la gueule du lion deux pattes ou un bout d'oreille, ainsi seront arrachés les fils d'Israël, ces gens installés à Samarie. Et encore une fois, il sait de quoi il parle, parce que ça, j'allais dire, il l'a vécu. Alors, chapitre 5, verset 19, c'est comme un homme qui fuit devant un lion et que l'ours surprend, il rentre chez lui, appuie sa main sur le mur et le serpent le mord. Le lion, l'ours, le serpent. Un berger qui dit, moi, je parle d'expérience parce que j'ai été confronté à un lion. J'ai été confronté à un ours. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Ça s'est passé à 5 km de là, hein. À 5 km, pas loin, hein. David. David qui, quand on lui dit « Mais toi, tu vas aller te battre contre Goliath, mais t'es un gamin !» Qu'est-ce qu'il répond? Il répond « Non, je suis berger. Je suis berger dans un endroit où il a fallu se battre contre un lion et il a fallu se battre contre un ours. » Alors vous trouvez ça dans le premier livre, je vais quand même prendre le temps de le lire, dans le premier livre de Samuel. 1 Samuel 17, ça veut dire que ce coin-là, côté bête féroce, il n'est pas de tourpeau. 1 Samuel 17, 33. Saül dit à David, « T'es incapable d'aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin, et lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » Et David répondit à Saül, « Ton serviteur était berger chez son père. » Donc, berger à Bethléem, donc à trois bornes. Hein. S'il venait un lion et même un ours pour enlever une brebis du troupeau, je partais à sa poursuite, je le frappais et la lui arrachais de la gueule. Quand il m'attaquait, je le saisissais par les poils et je le frappais à mort. Ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'entre eux, car il a défié les lignes du Dieu vivant. Donc effectivement, ça qualifie Amos pour rugir de la part de Dieu. Parce que un lion qui rugit, il a eu ça concrètement en face de lui. Alors, rugir pour dire quoi? Amos, tout berger qu'il est, va... alors évidemment, c'est l'Esprit de Dieu qui met ces paroles-là dans sa bouche. Il va être très, très intelligent dans la manière de livrer sa prophétie. Très intelligent parce que c'est un étranger, alors un étranger presque, parce que les royaumes d'Israël et de Juda sont quand même deux royaumes frères, mais quand même, il y a des prophètes. Encore une fois, à cette époque-là, c'est un métier. Donc à Bethel, on a fabriqué une ville religieuse avec tout ce que ça peut avoir de péjoratif comme appellation. C'est-à-dire que Il suffit de penser aux villes religieuses actuelles et on sait que il y a une prospérité du commerce religieux qui n'a pas grand-chose à voir avec la foi et qu'on tombe vite dans un amalgame de foi véritable et de religiosité au sens négatif du terme. Et donc les sanctuaires, c'est ça. Même au temple de Jérusalem, Jésus sera lui aussi se mettra en colère. sera obligé de rugir contre l'amalgame qu'on fait entre ce que doit être la foi et le commerce sur l'esplanade du temple. Et là, c'est encore plus vrai à Bethel. Parce que à Bethel, alors je dis pas qu'on vend des souvenirs, c'est peut-être pas la mode à l'époque, mais il est clair que on a dévoyé la, même si on a voulu faire un sanctuaire qui porte le nom de Dieu, on a fait des choses qui n'ont rien à voir avec la vraie religion. Et donc je disais, Amos, stratégiquement, pour montrer à quel point sa prophétie est ciblée, il va commencer par tourner autour de la cible. Alors, il va d'abord faire une prophétie contre Damas. Alors, ça tombe bien parce que c'est des villes qui existent encore, donc je n'ai pas besoin de les situer, vous savez où est Damas. Une prophétie contre Damas. Après, une prophétie contre Gaza. Après, une prophétie contre Tyr. Alors, jusque-là, Damas, Gaza et Tyr, ce sont des villes complètement étrangères. Après, on continue de resserrer l'étau. Après, c'est Édom. Alors, Édom, je ne sais pas si vous le situez, mais il faut surtout le situer. Enfin, il faut. Édom, vous savez ou vous ne savez pas, mais si vous ne savez pas, je vais vous le dire. Ça veut dire le rouquin. Et pourquoi ça veut dire le rouquin? Parce que c'est le surnom d'Ésaü, fils d'Isaac. Donc, ce n'est pas des étrangers, ça, c'est des cousins. C'est des Sémites. Et alors après, Ammon et Moab. Alors, qui sont Ammon et Moab? Ce sont les fils incestueux de Lot. Ça aussi, c'est des Sémites. Puisque Lot a couché avec ses filles, et ils ont eu des enfants, Ammon et Moab. Et donc là, l'étau se resserre. Et puis après, dernière prophétie contre Judas. Alors là, Judas, c'est plus les cousins, c'est les frères, puisque c'est l'autre royaume issu du schisme, mais là, c'est carrément le même peuple. C'est 2 tribus contre 10 tribus. Et finalement Israël. Ça veut très clairement dire, parce que quand on... un missile devant, un missile au-dessus, un missile en dessous, un missile à droite, un missile à gauche. On ne va pas dire à tous bon appétit, mais ça veut dire que le prochain, il est pour nous. Et c'est une façon très habile, mais encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui dirige ça, pour Amos, de dire je ne vous lance pas une prophétie à vous par hasard. C'est pas bah tiens, pourquoi pas eux ? C'est que Dieu, après avoir jugé tous les pays alentours, tous les pays de ceux qui sont vos cousins, et le pays de ceux qui sont vos frères, c'est vous qui êtes ciblés. Et c'est vous qui êtes ciblés. Alors d'abord, bon, si on étudie, mais j'ai pas le temps de tout dire hein, ce matin. Il faudrait encore d'autres séances, mais vous verrez que dans le livre d'Amos, comme d'ailleurs dans beaucoup de livres bibliques, la symbolique des chiffres est très présente. Et donc, si vous avez fait le compte de ce que je viens de dire, ça fait 8 prophéties en tout, alors que normalement c'est 7, puisque d'ailleurs toutes les prophéties commencent par « à cause des 3 et à cause des 4 rébellions de Damas » ou « à cause des 3 et à cause des 4 rébellions de Gaza » à cause des 3 et à cause des 4 rébellions de Tyr, à cause des 3 et à cause des 4 rébellions d'Édom, enfin, etc. Parce qu'effectivement, le chiffre 7, 4 et 3, évidemment, ça symbolise le fait que... Et les prophéties, ça devrait être la même chose. Il devrait y en avoir 7. Or, il y en a 8. Et il y en a 8 pour... Enfin, ça, comment est-ce qu'il faut le comprendre? Il faut comprendre dans le fait que, pour Dieu... Israël et Juda, ce n'est pas 2 entités différentes. C'est un seul peuple. Dieu ne voit qu'un seul peuple. Ça nous renvoie... Enfin, encore une fois, merci Manu pour ta phrase puissante. Dieu est différent. Moi, je rapproche ça des textes du Nouveau Testament où on nous dit que Dieu, il ne voit pas, quand il regarde deux êtres humains, il ne voit pas ou il ne voit pas la différence entre un juif et un non-juif. Il ne voit pas la différence entre un esclave et un homme libre. Il ne voit pas la différence, même s'il y en a une, évidemment, physiquement, entre un homme et une femme. Parce que, pour lui, il y a une identité qui ne nous est pas forcément perceptible. Et ben, c'est pareil, entre Israël et Juda, à cette époque-là, l'identité n'est pas perceptible, mais Dieu la voit et Dieu la considère. Alors, faut que j'aille beaucoup plus vite maintenant. Il va arriver à Bethel et il va dénoncer quatre dérives. Alors je vais aller. Ben, forcément, ce sera du survol. Mais si vous lisez le texte, vous verrez. Alors d'abord la perversion du culte, parce que je l'ai dit, Bethel c'est un grand foutoir religieux. Bethel et Gilgal d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que le vrai Dieu, c'est paradoxal de le dire, mais on a du mal à s'en contenter. On aime bien en rajouter, c'est-à-dire soit en faire une idole, soit y ajouter des idoles. Et à Bethel, c'est ce qui se passe. Alors, évidemment, on ne dit pas, parce que Bethel, maison de Dieu, quand même. On ne dit pas c'est une ville païenne. On ne dit pas que c'est... On ne suggère même pas que ce sont d'autres dieux qui sont adorés là. Mais qu'est-ce qu'on en fait du Dieu de la Bible? Qu'est-ce qu'on en fait? Et de la même manière, vous vous souvenez que dans le désert, ils ont fait le veau d'or. Mais le veau d'or, ils ont dit c'est le Seigneur, si vous reprenez le texte. Et bien là, c'est pareil, c'est le Seigneur et rebolote un veau. Alors, est-ce que je vais vous trouver ça? Voilà, chapitre 3, verset 14. C'est au jour où j'interviendrai contre Israël à cause de ses forfaits, j'interviendrai contre les autels de Bethel, on cassera les cornes de l'autel et elles tomberont à terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autel censé être dédié à la vénération du vrai Dieu, eh ben, elle est symbolisée par une bête à cornes. On cassera les cornes. Ça veut dire que, et on trouve, alors, je vais pas, il y a des dizaines de textes, mais qui montrent à quel point on est dans le syncrétisme le plus complet. Cherchez-moi, ça c'est au chapitre 5 et au verset 5. C'est ainsi que parle le Seigneur à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez, mais ne me cherchez pas à Bethel, n'entrez pas à Gilgal et ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera entièrement déporté et Bethel deviendra iniquité. Cherchez le Seigneur et vous vivrez. Façon pour Dieu de dire, enfin façon, c'est pas une façon, c'est directement pour Dieu de dire, ne venez pas me rencontrer là, je n'y suis pas. Je n'y suis pas. Alors, ce serait facile pour les évangéliques que nous sommes de dire, ah ben voilà, Amos, à travers les siècles, parle contre Lourdes, parle contre Rome, parle contre, Lisieux, etc., c'est-à-dire tous les endroits où, sous prétexte d'adorer Dieu, on fait du commerce et on en fait des tonnes. Si leçon il doit y avoir, interrogeons-nous, parce qu'effectivement, il n'y a ici aucune représentation de bête à cornes, aucune statue, aucune... Certes, mais ma relation avec Dieu, est-ce qu'elle n'est pas entachée d'une forme de syncrétisme, c'est-à-dire est-ce que j'adore vraiment Dieu et lui seul, ou est-ce que je n'ajoute pas, même si c'est pas encore une fois sous la forme de statut, est-ce que je n'ajoute pas des choses fabriquées à ma sauce? Parce que comme dans le désert, si on fait le veau d'or, enfin, le veau, c'est évidemment, on dit le veau en hébreu, mais c'est par dérision, c'est pour s'en moquer. En réalité, c'est un taureau, hein. Là aussi, puisqu'il y a les cornes. Est-ce que, parce que Dieu est silencieux trop longtemps à mon goût, puisque c'était ça au départ, hein, ça vient, tu redescends de ta montagne, Moïse, non, tu redescends pas, bon, bah, on va se débrouiller sans toi et on va faire ce qui nous arrange. Parce que le temps de Dieu, c'est pas le nôtre, et s'il faut en choisir un, on va choisir le nôtre. Est-ce que je suis pas là-dedans, parfois? Deuxième dérive que Amos va dénoncer, alors là, on est en pleine actualité, c'est l'injustice sociale. L'injustice sociale, parce que Amos, alors là, à longueur de page, c'est son message massif, c'est de dire « qu'est-ce que vous avez fait des pauvres ?» Et effectivement, ils ont connu, c'est pour ça que c'est comparable à notre temps, ils ont connu, je parlais de croissance à deux chiffres, leur trente glorieuse aussi, c'est-à-dire période de paix, période de prospérité, avec la même dérive que nous, c'est-à-dire l'accroissement des inégalités. Les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. La fortune se concentre dans une part très restreinte de la population, et la part restreinte de la population qui possède les moyens de production exploite de manière indécente les pauvres. Alors là, je vais citer 2% de ce que j'ai fait comme liste. Donc, chapitre 3, verset 9. Assemblez-vous sur les montagnes de Samarie, voyez quel amas de désordre en son sein, quelles oppressions au milieu d'elles. Ils n'ont pas le sens de l'action droite, ces entasseurs de violence et de rapine dans leur palais, enfin, etc. Chapitre 4, verset 1er. Alors, ça va vous faire sourire. Écoutez cette parole, vache du Bashan. Il s'adresse à des femmes, là. Il sait parler aux femmes. Écoutez cette parole, vache du Bashan, qui paissait sur la montagne de Samarie, exploitant les indigents, broyant les pauvres et disant à vos maîtres, apporte à boire. Le Seigneur le juge par sa sainteté. Voici venir sur vous les jours où on vous enlèvera avec les crocs et vos suivantes avec des harpons. Oui, là, faut pas se méprendre sur ce qui serait aujourd'hui une injure absolue. Vous traitez une femme de vache, vous allez voir ce qui va vous arriver. Quand il dit à propos des femmes de Samarie, vache de Bashan, ça n'est pas du tout pour des raisons de corpulence, on va dire, parce que la dictature de la minceur n'existe pas à l'époque. Et alors, on n'en sait pas grand-chose, il est beaucoup plus probable que le fait d'être corpulente soit un signe de prospérité et donc rende une femme désirable à l'époque. Comparer les femmes à des vaches de Bashan, c'est pointer du doigt leur égoïsme, pas leur forme physique. Leur égoïsme, c'est-à-dire il n'y a rien de plus égoïste qu'une vache qui broute. Elle se fout éperdument de ce qui se passe autour. Et donc c'est ça, c'est vous vous comportez, c'est-à-dire vous mangez, vous buvez, exactement comme des vaches qui broutent, c'est-à-dire sans le moins du monde jeter un coup d'œil à droite ou à gauche pour voir si des fois le voisin manquerait de quelque chose. Et de la même manière, donc Amos dit « pas de vraie religion ». Sans un culte pur, il dit aussi, pas de vraie religion sans justice sociale. C'est-à-dire, alors, il ne s'agit pas d'en faire un argument politique, Il s'agit de dire que Dieu ne veut pas de gens qui ont la prétention de lui rendre un culte et qui ne se préoccupent pas du sens du sort de leurs frères et sœurs. Rendre un culte à Dieu sans se demander si le voisin a à bouffer, ça n'a pas de sens, dit Amos. Et ça fait rugir Dieu. Je suis obligé de vous faire cadeau de beaucoup de... Puisque vous pressurez l'indigent en lui saisissant sa part de grain, ces maisons en pierre de taille que vous avez bâties, vous n'y résiderez pas. C'est-à-dire que vous vous êtes engraissé par l'exploitation des pauvres. Eh bien, ça, Dieu ne le tolère pas. Au point d'ailleurs, et c'est la troisième dérive qui est dénoncée par Amos, c'est que la justice, qui pour le coup devrait être une vertu, comme son nom l'indique, elle est détournée pour favoriser l'exploitation. La justice n'est plus juste, parce que c'est une justice de caste. Alors, la justice au service d'un système, alors vous retrouvez ça, il change le droit en poison et il traîne la justice à terre. Chapitre 6, verset 12. Est-ce que les chevaux galopent sur des rochers, il abourton avec des bœufs, pour que vous fassiez tourner le droit en poison et le fruit de la justice en ciguë. Même sur le terrain, alors, il y a une dimension alors, économique, donc du coup politique aussi, quand même, et il faut le lire. Écoutez ceci, vous qui vous acharnez sur le pauvre pour anéantir les humbles du pays. Vous qui dites, quand donc la nouvelle lune sera-t-elle finie? Parce que pendant ce temps-là, on bosse pas, hein. Enfin, on fait pas de commerce. Pour que nous puissions vendre du grain. Et le sabbat, que nous puissions ouvrir les sacs de blé. Et là où ça commence à dériver sérieusement, c'est diminuant les fats, augmentant le cycle, faussant les balances menteuses, achetant des indigents pour de l'argent et un pauvre pour une paire de sandales. Nous vendrions même la criblure du blé. Et le Seigneur le jure par l'orgueil de Jacob, jamais je n'oublierai aucune de leurs actions. À cause de cela, la terre va frémir. Dieu ne supporte pas que des gens aient la prétention de lui rendre un culte alors qu'on fait du commerce de manière illégale, c'est-à-dire en faussant les balances. Non seulement on s'enrichit, mais on s'enrichit par des mauvais procédés. Et puis, quatrième grief, il n'y a pas de religion sans morale. Ça, c'est une phrase que notre époque ne peut plus et ne veut plus entendre. Mais pourtant, chapitre 2, verset 7, donc, on commence au chapitre 2, c'est aussi... rébellion d'Israël parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Bon, ça, c'est ce que je viens de dire. Parce qu'ils sont avides de voir la poussière du sol sur la tête des indigents et qu'ils détournent les ressources des humbles. Tout ça, je l'ai dit. Et après ça, le fils et le père couchent avec la même fille. On est déconnecté des considérations morales. Et ça, c'est aussi... c'est aussi un trait de notre époque. Je connais quelqu'un, et je vous jure que c'est vrai, qui prend le taxi pour aller voir ses maîtresses le samedi. Ses maîtresses, parce que si on n'en a qu'une, c'est pas drôle. Pourquoi il prend le taxi pour aller voir ses maîtresses le samedi? Parce que c'est Shabbat, et que quand on est un juif pieux, on conduit pas le samedi. Non, mais je pourrais vous le nommer. Ça veut dire... Alors, il m'appartient pas... Non, mais il ne m'appartient pas de juger... Le jugement appartient à Dieu. Simplement, pour dire, il y a des gens pour qui c'est devenu tellement normal de déconnecter la religion et la morale. Et là aussi, Dieu rugit en disant, ne sortez pas du culte le père et le fils pour aller coucher avec la même fille. Il faut un peu de cohérence. Ça, je dis pas nous, mais notre époque a besoin de l'entendre. Notre époque a besoin d'entendre que la religion, c'est pas quelque chose. On dit maintenant, alors je vais employer une expression à la mode, c'est pas hors sol, c'est ancré, c'est enraciné dans quelque chose de plus global qui inclut évidemment l'obéissance aux préceptes divins. Alors, j'ai pas le temps de parler des cinq visions, puisqu'il va avoir cinq visions. Il va livrer cinq visions qui vont résumer le jugement. Si vous lisez ça cette semaine, je prends celle du milieu pour en dire un mot, parce qu'elle est compliquée, c'est compliqué à traduire, là, pour le coup. Il faut le comprendre, Dieu met un fil à plomb sur le long du mur qu'est Israël, et il faut le comprendre comme ça, c'est encore une fois très difficilement traduisible. Dieu a mis un fil à plomb, et comme le mur n'est pas droit, le mur a vocation à être démoli. C'est comme ça, si vous le lisez, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, parce que c'est traduit de manière différente selon les... Donc, laissons tomber, pardon, mais est-ce que vous m'accordez encore 10 minutes, parce qu'il est tard ? Pas plus. Allez, c'est parti pour 10 minutes. Donc, je laisse tomber les cinq visions, et surtout, bon, il va faire trois prophéties, alors, qui sont pas d'égale importance, mais... Il va d'abord, alors, pourquoi pas, prophétiser une éclipse. Chapitre 8, verset 9. Il arrivera ce jour-là, oracle du Seigneur mon Dieu, que je ferai coucher le soleil en plein midi et que je mettrai l'obscurité sur la terre en plein jour. Alors, c'est tout ce qu'il en dit. Il annonce une éclipse. Parce que vous avez entendu tout à l'heure que quand il commence, l'entête du livre dit 2 ans avant le tremblement de terre. Autant ce tremblement de terre, on a du mal à le dater, parce que c'est compliqué, les documents de l'époque ne permettent. Autant les progrès de l'astrophysique nous permettent de dater l'éclipse, et du coup on sait. C'est ce qui nous a permis de savoir à quelle époque c'était dit. Mais bon. Donc il annonce l'éclipse, le fameux tremblement de terre, donc il y a tout un tas de textes dans lesquels il dit que ça va secouer. Alors ça secoue, chapitre 8, verset 8. À cause de cela, la terre ne va-t-elle pas frémir et tous les habitants prendre le deuil? Elle gonflera comme le fleuve, elle s'enflera et s'affaissera comme le... Voilà, donc tremblement de terre, chapitre 9, verset 5. Le Seigneur, le Tout-Puissant, touche la terre pour qu'elle tremble, et tous les habitants prendront le deuil, alors pareil, etc. Et chapitre 3, verset 15 aussi. Chapitre 3, verset 15. Je frapperai la maison d'été et la maison d'hiver, les maisons d'ivoire disparaîtront, et les grandes maisons s'écrouleront. Tout ça, c'est pour le tremblement de terre. Et puis, troisième prophétie, alors celle-là, elle est sérieuse, les deux autres aussi, mais... il va surtout annoncer la déportation, puisque vous savez qu'après, enfin, peu de temps après, d'abord au nord, les Juifs vont être déportés à Babylone, puisque du coup l'Assyrie va se réveiller, et donc du coup l'Assyrie va prendre l'ascendant, et puis le pays va être rasé, et les habitants, enfin ceux qui restent, enfin une partie, emmenés à Babylone. Alors là, il en parle beaucoup de déportation, donc c'est pourquoi maintenant ils vont être déportés en tête des déportés. Et alors là, où il a une belle expression aussi. Ça, c'est 6, verset 7. Tiens, je serais curieux, José, je serais curieux de savoir comment c'est traduit. Parce que là, la Bible... c'est pourquoi... voilà. Et s'en sera fini des banquets des fêtards, vautrés sur leur divan. Oui, c'est pas mal, parce que c'est exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire, vous allez arrêter de vous vautrer. Et donc ça c'était, voilà, chapitre 7, verset 17, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Ah oui, alors ça c'est quand il, bon je vais y venir tout à l'heure parce que c'est un truc assez spécifique. Alors, quand même, il faut que je vous parle du chapitre 5, verset 11. Chapitre 5, verset 11. Non. Ah oui, c'est ça. « Puisque vous pressurez l'indigent, lui saisissant sa part de grain, ces maisons en pierre de taille que vous avez bâties, vous n'y résiderez pas. Ces vignes de délices que vous avez plantées, vous n'en boirez pas le vin. Pourquoi ? Bah parce que vous serez déportés, donc vous n'y serez plus. » Et au verset 27, « Je vous déporterai au-delà de Damas, dit le Seigneur, le Dieu des puissances. Alors, je vous c'est assez marrant d'ailleurs, parce que « Je vous déporterai au-delà de Damas », donc vous voyez où est Damas. Et quand, puisque ça c'est cité par Étienne. Et quand Étienne le cite, alors il cite évidemment la traduction en grec, et Damas, du coup, c'est devenu Babylone, puisque à ce moment-là, on sait que la déportation, c'est la déportation à Babylone. Donc quand, alors c'est acte 7, verset 43. Acte 7, verset 43, voilà. Donc il cite Amos, « M'avez-vous offert des victimes en sacrifice pendant 40 ans au désert, nation d'Israël ? Vous avez porté la tente de Moloch et l'astre de votre dieu Raphan, ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous déporterai-je au-delà de Babylone. » Alors, du coup, Damas est devenu Babylone, parce qu'on sait jusqu'où est allée la déportation. Et puis, surtout, il fait allusion, justement, à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire Dieu qui dit, pendant que vous avez traversé le désert, votre religion, c'est-à-dire censément l'adoration que vous me portez, c'est devenu du grand n'importe quoi, au point que vous vous êtes fait des idoles et que vous les avez adorées. Est-ce que vous m'avez fait des sacrifices et des offrandes ? Non, que dalle, mais par contre, vous avez fait des portraits, etc. Et c'était ce qu'il disait aussi. Donc, donc ça, c'était déjà dans Amos. Donc que le droit jaillit. Hein. M'avez-vous présenté des sacrifices et des offrandes au désert pendant 40 ans, maison d'Israël ? Mais vous avez porté Sikout, votre roi, et Kiyoun, vos images, l'étoile de vos dieux, que vous vous êtes fait, je vous déporterai. Alors, ce n'est pas les mêmes noms, parce que c'est dans un cas, c'est en hébreu, dans l'autre cas, c'est en grec. Mais voilà. Et donc, Amos va balancer tout ça. En conséquence de quoi, il va être viré, parce que le petit commerce de Bethel ne supporte pas ça, évidemment. Et donc, comme toujours, et ça se retrouve aussi dans le Nouveau Testament, où parfois on se heurte, par exemple, à la confrérie des marchands, des marchands d'Éphèse qui vivent du culte rendu à Diane, à la déesse. Et donc, du coup, il faut surtout pas mettre à mal ce commerce religieux. Et là, c'est pareil. Donc, du coup, très rapidement, il va se retrouver. Donc, sa prédication, en fait, ne va pas durer très longtemps, parce que il va avoir affaire à un type qui s'appelle Amasia. Voilà. Le prêtre de Bethel, évidemment, c'est son fonds de commerce. Hein. Le prêtre de Bethel, Amasia, envoya dire à Jéroboam, donc son roi, « Amos conspire contre toi au sein de la maison d'Israël. Le pays ne peut plus tolérer ce qu'il dit, car il parle de la manière suivante. C'est par l'épée que mourra Jéroboam et Israël sera entièrement déporté loin de sa terre. Amasia dit alors à Amos, « Va-t'en, voyant. » il lui colle l'étiquette voyant, « Sauve-toi au pays de Juda, donc retourne chez toi, retourne dans ton pays, et là-bas, tu peux gagner ton pain et prophétiser. » C'est-à-dire, effectivement, il le prend pour un prophète professionnel, donc qui se fait rémunérer, donc va gagner ton pognon ailleurs, avec tes prophéties à la noix, car c'est ici le sanctuaire du roi et le temple royal. Et Amos répondit à Amasia, « C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je n'étais pas prophète, je n'étais pas fils de prophète, j'étais bouvier, je traitais les sycomores, les figuiers, mais le Seigneur m'a pris de derrière le bétail et le Seigneur m'a dit, va, prophétise à Israël mon peuple, maintenant donc, écoute la parole du Seigneur, et là c'est une prophétie directement contre Amasia, qui parle aussi de la déportation, tu déclares, tu ne prophétiseras pas contre Israël, tu ne baveras pas sur la maison d'Isaac, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, ta femme va se prostituer dans la ville, tes fils et tes filles tomberont sous l'épée, ta terre sera partagée au cordeau, et toi tu mourras sur une terre impure, donc en déportation, et Israël sera entièrement déporté loin de sa terre. Voilà la sanction. Tu veux me virer ? Ben voilà ce que Dieu a à t'annoncer. Je ne vais pas m'arrêter là, d'abord parce qu'il reste encore 5 minutes, et puis surtout parce que du coup, tout est négatif dans ce que j'ai dit. Or Amos, c'est aussi l'espérance. C'est aussi l'espérance, parce que c'est pas simplement vous allez vous prendre une coupure de courant, bon, ça on s'en fout, l'éclipse, voilà. Vous allez vous prendre un tremblement de terre, ça c'est déjà plus embêtant, et vous allez vous manger la déportation. Donc c'est pas que des bonnes nouvelles, hein, du coup. Et pourtant, alors, pour pas rentrer chez nous avec une dépression ou un spleen, l'espérance chez Amos, j'aurais voulu avoir une heure pour en parler, parce que c'est l'annonce première de ce qu'on va appeler en théologie la théorie du reste, c'est-à-dire qu'il va annoncer, donc chapitre 5, verset 15, « Haïssez le mal et aimez le bien, rétablissez le droit au tribunal, peut-être, ça avance pas, peut-être que le Seigneur, le Dieu des puissances, aura pitié du reste de Joseph. » Eh bien, ainsi parle le Seigneur, le Dieu des puissances, mon Seigneur. Alors après, il annonce des malheurs, mais il dit que Dieu va avoir pitié d'un reste. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve après dans beaucoup de textes, c'est-à-dire Dieu dit, Israël, ça va bien comme ça, mais je ne vais pas tout anéantir. Je vais susciter un reste. Et à la fin du livre, chapitre 9, verset 8, « Voici les yeux du Seigneur mon Dieu sur le royaume coupable. Je vais l'exterminer de la surface du sol. Toutefois, je n'exterminerai pas entièrement la maison de Jacob. » Oracle du Seigneur, je vais vous secouer parmi toutes les nations, la maison d'Israël, comme on secourait dans un crible, sans que la plus petite pierre tombe à terre. Et c'est par l'épée que vont mourir tous les coupables de mon peuple qui disaient, il ne s'approchera pas, il ne nous arrivera pas de malheur. Dieu dit, voilà, je vais faire comme dans un tamis, c'est-à-dire il y aura un reste, et le reste, je vais relever. Alors, il parle de la restauration de la royauté, toujours au chapitre 9, au verset 11. « Ce jour-là, je relèverai la hutte croulante de David, j'en colmaterai les brèches, je relèverai les ruines, et je la dresserai comme au jour d'autrefois, de sorte qu'ils posséderont le reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été prononcé. » Alors ça, c'est un texte qui est repris aussi dans le livre des Actes. C'est Jacques, au moment, vous en souvenez, au moment où il va s'agir de savoir s'il faut faire en sorte que les païens qui se convertissent soient aussi juifs, c'est-à-dire la question est de savoir principalement s'il faut les circoncire. Jacques, qui commence à diriger l'église de Jérusalem à ce moment-là, va dire non, il ne faut pas imposer la religion juive aux païens qui se convertissent, et il va s'appuyer sur ce texte-là, en disant, quand il dit la hutte ou la cabane de David, ça veut dire que, effectivement, la lignée royale davidique s'est éteinte très vite, puisque, Salomon, un ou deux après, et puis après terminé, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la La dynastie davidique, elle est par terre. Hein. La preuve, c'est que Joseph, qui est un lointain descendant de David, il est pas, il a aucune place particulière dans la société. Il fait son boulot de charpentier comme tout le monde. Dieu annonce en disant « La cabane de David, je vais la rétablir ben, ». Évidemment, le descendant ultime de David qui va recevoir la royauté, c'est Jésus. Mais comme une cabane qu'on redresse, c'est-à-dire surtout pas un palais royal, c'est-à-dire dans la modestie. Mais par contre, ce qui est promis à cette cabane, c'est-à-dire à cette dynastie modeste, ben, c'est un règne infini, c'est-à-dire je l'adresserai, de manière universelle, c'est-à-dire ils posséderont le reste des dômes et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été prononcé. Et c'est ça qui va aider Jacques à dire il faut pas obliger les païens convertis à devenir des juifs, parce que tout ça n'a plus de sens. Parce que la royauté du descendant ultime de David, qui est Jésus, c'est-à-dire la royauté qui n'est pas de ce monde, elle est universelle. Et elle n'a pas besoin de se couler dans le moule d'une religion, fût-ce le judaïsme. Et enfin, la restauration non seulement de la royauté, mais la restauration du royaume lui-même. Donc là, c'est la fin du livre, donc j'ai terminé. Voici que viennent les jours où le laboureur suit de près celui qui moissonne, le vendangeur celui qui sème, les montagnes font couler le mou et chaque colline ruisselle. Je change la destinée d'Israël, mon peuple. Ils rebâtissent les villes dévastées pour y demeurer. Ils plantent des vignes pour en boire le vin. Ils cultivent des jardins pour en manger les fruits. Je les plante sur leur terre. Ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit le Seigneur. Je ne vais pas m'étendre, mais il y a trois niveaux de lecture possibles, et je n'entre pas dans le débat, et je vous fais grâce du débat sur les trois manières de comprendre ça. C'est que, je rétablirai sur leur terre, etc. On peut y voir le retour, à mon avis, il faut y voir principalement le retour de déportation, c'est-à-dire, en même temps que Dieu dit, par la bouche d'Amos, « Je vais déporter mon peuple », il dit aussi, mais un jour je les ramènerai, et c'est ce qui se produira. Il y a un deuxième niveau de lecture que je ne commande pas, c'est de dire, ça vise aussi la création de l'État d'Israël en 1948, mais il faut être prudent sur le fait de ramener à des événements contemporains des prophéties bibliques. Moi, j'ai encore dans les oreilles les paroles de ceux qui disaient l'armée viendra du nord et ils disaient si vous dressez une droite vers le nord à partir de Jérusalem vous arrivez à Moscou, ce qui est vrai et ces gens-là disaient donc c'est évident l'URSS va envahir Israël. L'URSS n'existe plus depuis longtemps, il ne s'est rien passé de ce genre. Donc il faut se méfier quand on adapte ça à des événements contemporains. Et puis aussi, un troisième niveau de lecture auquel là je pense qu'il faut prêter attention, c'est une lecture eschatologique, c'est-à-dire le royaume de celui dont le royaume n'est pas de ce monde et auquel on appartient, ce royaume-là, il va être établi à coup sûr et établi pour l'éternité. Pardon d'avoir été très long.